Radio Jeune Ville, c'est de l'information, de la musique, des découvertes et de l'humour. Et c'est tous les mardis à 20h, mercredi 14h et samedi à 8h sur radiobus.fm.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur les ondes de Radio Genolier. Aujourd'hui, la suite de la grande interview avec M. Rossella. Si vous avez manqué la première partie, elle est disponible en podcast sur radiobus.fm. Nous reprenons tout de suite le cours de l'interview avec les questions de Nicolas.
Monsieur Rossella, Margot vous a posé différentes questions sur les débuts de Paléo, super festival qui a fêté ses 40 ans en 2016. Je voudrais maintenant discuter avec vous du dernier Paléo de la 42e édition et l'édition qui aura lieu en juillet 2018. Première question, le festival 2017 en quelques chiffres. J'entends par là le nombre de visiteurs, le nombre de bénévoles, le nombre de kilomètres de papier toilette utilisés.
Alors, d'abord, on peut dire que Paléo, c'est une ville éphémère de 50 000 habitants pendant 6 jours. Dans ces 50 000 habitants, il y a 4 800 collaborateurs bénévoles, il y a 600 journalistes, 1 500 artistes, techniciens et autres, plus un grand nombre de 2 500 partenaires, ça veut dire des gens qui tiennent des stands, des sponsors, etc. Étant entendu que les bars sont tenus par des clubs sportifs qui font partie de nos bénévoles. J'ignore le nombre de kilomètres de papier toilette, mais c'est un grand nombre de palettes, en tout cas, parce qu'évidemment, ces 50 000 personnes, certaines, 10 000 à peu près, vivent pendant les 5-6 jours au festival, notamment au camping. Et bon nombre de collaborateurs aussi sont au campus. Donc c'est une assez grosse machine au niveau logistique, puisque ce sont des gens qui vont boire, manger, écouter de la musique, bien sûr, mais qui vont venir en train, en bus, en voiture, à pied, en vélo. Donc il va falloir prévoir tout ça, sans compter le nombre de camions qui vont livrer tout ce qui va être bu, mangé, sans parler de tous les camions qui amènent la sonorisation, les éclairages, le matériel des artistes, etc. Donc, c'est vraiment une ville. Nyon, c'est 20 000 habitants. Et Paléo, c'est 50 000 habitants pendant 6 jours.
On voit partout dans les médias, à chaque édition du Paléo. Et quel est votre rôle actuel dans l'organisation du Paléo? Par exemple, avez-vous encore votre mot à dire sur le choix de quelques groupes?
Alors mon rôle, je suis le président de l'association. Ça veut dire que je suis soumis à réélection. Par chance, comme j'étais là depuis le début, les gens sont plutôt gentils avec moi, mais quand on est président, je dois arbitrer un certain nombre de choses, puis quand on arbitre, des fois il y a un des deux qui n'est pas content, ou des fois même les deux, donc je dois prendre un certain nombre de décisions. Je dois veiller à ce que la crédibilité du festival ne souffre pas, qu'on ait une ligne. Je suis un peu gardien des valeurs, parce que le succès de Paléo, ce sont des valeurs quand même. Des valeurs qui soudent les gens, qui font qu'il y a une convergence des efforts pour organiser tous le même festival. À part ça, j'ai un regard sur les finances, bien sûr, parce que si le festival n'est pas géré correctement, il ne va pas durer longtemps. Et sur la communication, ainsi que sur les nouveaux projets. Une manifestation comme la nôtre doit non seulement savoir se remettre en question, mais innover. Et il faut une culture de la critique sans accuser les gens, simplement que tout le monde comprenne qu'on a le droit de se tromper, mais on n'a pas le droit de se tromper deux fois. Ça veut dire que si on s'est trompé, on doit améliorer la fois d'après, et que ça fait partie de l'amélioration du festival. D'ailleurs, je considère que le succès de Paléo sont des erreurs corrigées et des échecs surmontés. Donc voilà un peu mon rôle. Concernant les artistes, j'ai quand même un regard sur les finances, c'est sûr que si c'est un artiste important, on va en parler, parce qu'il va falloir que je donne mon OK pour qu'on paye le cachet s'il est important. Pour le reste, je vois assez régulièrement Jacques Monnier. C'est un ami d'enfance. On se connaît depuis qu'on a l'âge de 5 ans et on travaille toujours ensemble. Et c'est lui qui s'occupe de la coordination de la programmation. Donc on est complices, on n'a pas besoin de se parler longtemps pour être en parfaite harmonie. Et puis, ben, régulièrement, il me montre la grille de programmation et on échange sur ça. Mais c'est sa responsabilité à la fois de maîtriser les budgets et de construire la grille de programmation. Mais comme je vais voir pas mal de festivals et que je vois beaucoup de groupes et que ça reste ma passion, évidemment, on échange assez régulièrement sur la programmation.
J'imagine que vous ne pouvez pas nous dévoiler les groupes déjà signés pour 2018, mais y a-t-il un groupe que vous vouliez pour cette 42e édition, mais qui n'a pas pu venir ou qui n'y est pas ?
Alors, on est aujourd'hui dans une phase, à cette période de l'année, où beaucoup de choses sont possibles, mais il n'y a pas grand-chose qui est encore certain. Donc, on a déjà un certain nombre d'accords, mais des contrats ne sont pas encore signés. On a quelques confirmations, mais il y a encore beaucoup de groupes qui sont en discussion. Et on espère d'avoir quelques confirmations avant Noël. Et puis, tout le reste de la programmation va se finaliser entre le 15 janvier et le 15 mars à peu près. Donc c'est relativement tard. Chaque année, on a un certain nombre de groupes qu'on aurait aimé avoir et qui finissent par ne pas être à l'affiche, mais on parle de ceux qui sont là et pas de ceux qui ne sont pas là. Sinon, on se plombe le moral. Et bien sûr qu'il y a un certain nombre de groupes ou d'artistes que j'aurais aimé accueillir une fois à Paléo. Certains, malheureusement, sont décédés et là, on n'aura plus l'occasion de les inviter. Puis, il y en a quelques autres. Ben, je rêve toujours d'avoir un jour Bruce Springsteen ou Paul McCartney ou Phil Collins ou quelques autres. Sont en général des légendes parce que les plus jeunes, ben, on a toujours bon espoir de les accueillir l'an prochain, dans 2 ans, dans 3 ans.
Pouvez-vous nous éclairer sur une petite anecdote, l'émission 120 secondes qui a fait une vidéo sur le paléo, dont une sur le back-office. On voit une affiche du Montre du Haz et sur laquelle tout le monde a été invité à cracher dessus. Alors, mythe ou réalité ?
Non, c'est un mythe, c'est un gag. Avec Montreux, on se connaît depuis très longtemps. J'ai côtoyé Claude Nobs pendant... depuis 1971 jusqu'à son décès. Klonops a fait un travail remarquable. Il a posé Montreux sur la carte du monde en étant employé de l'Office du tourisme d'abord et puis ensuite à la tête de la fondation. C'est un passionné que j'ai toujours beaucoup respecté. On a partagé plein de choses ensemble, notamment au niveau de la gastronomie et des vins. On a parlé beaucoup de musique et d'artistes. On a essayé de discuter par rapport à des échanges au sujet de certains artistes, qu'on a fait quand même assez régulièrement. Bien sûr que nous avons deux tempéraments assez différents, mais on s'est toujours bien respecté. Avec Mathieu Jaton maintenant, ça se passe vraiment très bien. Il y a un respect réciproque entre Montreux et Paléo. Donc, bien sûr qu'ils peuvent être un peu concurrents par rapport à certains artistes, pas vraiment par rapport au public, mais il y a en tout cas, il y aura jamais de manque de respect de la part de Paléo à l'égard de Montreux.
Vous avez une autre anecdote des coulisses de Paléo racontée à nos auditeurs, par exemple, un groupe que vous regretteriez d'avoir invité.
Ben oui, il y avait Oasis quand ils sont venus à Nyon. Après 20 minutes, même pas 20 minutes, ils ont reçu des pièces de monnaie et des briquets sur scène. Ils étaient tout énervés. Ils sont sortis de scène, ils sont remontés un petit peu après en disant « s'il y a encore un qui lance quelque chose, on sort définitivement de scène ». Et ce qui fait qu'au bout de 22 minutes, ben, ils sont sortis de scène et plus jamais remontés. Il y avait 35 000 personnes devant la scène. Évidemment que c'était une situation extrêmement risquée et tendue parce que les gens, ben, ils voulaient voir le concert d'Oasis et puis le groupe ne voulait pas remonter sur scène. Donc, moi, j'étais les trouver. Je les ai traités de sales gamins mal élevés. Ça n'a pas aidé. Donc, ils ne sont pas remontés sur scène. Je leur ai même dit qu'ils sortiraient quand le dernier spectateur serait sorti. Donc on les a bloqués dans les loges, ils ont téléphoné à l'ambassade d'Angleterre parce qu'ils avaient peur de la situation. Mais c'était un moment extrêmement difficile et le fin mot de l'histoire en fait, c'est que comme Oasis n'arrêtait pas de critiquer d'autres groupes anglais, eh bien, il y avait quelques Anglais qui allaient à tous les concerts d'Oasis pour foutre la pagaille un peu. Et c'était des anti-fans qui allaient pour provoquer les gens du groupe Oasis. Donc voilà, ça n'a pas été une très bonne expérience. Ils nous ont proposé de revenir en disant « bon, on fait la paix maintenant ». Mais pour le moment, ils sont encore sur la blacklist, quoi.
Okay. J'ai très envie de travailler au Paléo. Comment dois-je m'y prendre pour devenir bénévole? Y a-t-il un âge minimum ou pas?
Alors oui, il y a un âge minimum qui est de 16 ou 18 ans, ça dépend des jobs. Si c'est entre 16 et 18, ben, il faut une autorisation des parents, bien sûr. Il n'y a pas beaucoup de postes sur les 4800. Souvent ce sont des enfants de bénévoles, ça veut dire des enfants de gens qui travaillent déjà. Pourquoi? Parce que le père ou la mère sont déjà sur place, et puis c'est un peu plus facile. On a même quelques postes de juniors, mais ils sont là vraiment réservés qu'à des enfants de gens qui travaillent déjà, qui faut avoir une activité beaucoup plus courte qu'un collaborateur normal. C'est un peu une initiation à l'organisation. Donc voilà, à partir de 18 ans, c'est plus facile. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de travailler au festival, et que, à part pour certains postes comme le nettoyage ou la sécurité, où il y a quand même un tournus un peu plus grand, c'est des très grands secteurs, il y a assez peu de chances d'intégrer une équipe. Parce que ça se fait par cooptation, et il n'y a pas une centrale qui reçoit toutes les inscriptions et qui après les dispatche, sauf un peu pour la sécurité et nettoyage, mais c'est plutôt le chef d'équipe ou le responsable d'un secteur qui va engager les gens. Et quand il y en a un qui part, eh ben, y a tout de suite quelqu'un qui dit « moi j'ai mon copain, mon frère, ma soeur, ma copine, etc. » qui va venir. Ça permet d'avoir une bonne solidarité entre les gens. Tandis que si on avait un système central, ben évidemment, ça serait différent. Il y a un inconvénient, c'est que c'est difficile de trouver sa place. Il reste une chance. On a 35 clubs sportifs ou sociétés culturelles qui tiennent des bars dans le festival. Et c'est une occasion pour les membres de ces clubs de pouvoir participer à la tenue d'un bar. Et puis évidemment, si c'est des bars avec de l'alcool, ça ne peut pas être des juniors.
Ces dernières années, le Paléo est devenu plus écologique et qu'avec par exemple des consignes pour les gobelets, quels sont les points que le Paléo peut encore améliorer au terme de développement durable?
Alors le développement durable, c'est pour nous une évidence. On a fait longtemps du développement durable sans le savoir, parce que ça ne s'appelait pas tout à fait comme ça, mais le respect de l'environnement et de la nature était dans les valeurs de base de Paléo. Pendant longtemps, on a fait pas mal d'efforts pour trier, pour économiser sur les déchets, pour essayer d'améliorer les choses, mais on ne communiquait pas. Et à la fin des années 90, on a décidé de communiquer parce que si on voulait la complicité des spectateurs pour améliorer la situation, pour en tout cas limiter l'impact du festival sur l'environnement, eh ben, on a dû communiquer. Et on a eu la chance d'abord d'avoir l'adhésion des spectateurs. On a reçu pas mal de distinctions. On était parmi les 5 premiers festivals européens à avoir un label dans le domaine du développement durable. Et un label parce que, pas juste parce que c'était une récompense, parce qu'on était gentil, mais parce qu'on pouvait prouver par nos actions qu'on était pleinement responsable dans le domaine. Alors, maintenant, c'est clair qu'il y a encore des progrès à faire. Il faut savoir que par rapport au bilan carbone, l'impact le plus fort sont les déplacements. Les déplacements des spectateurs, mais aussi des marchandises ou du matériel qui va avec le spectacle. On peut sûrement faire mieux. Le but pour nous, ça serait de favoriser davantage encore le covoiturage, d'améliorer encore la mobilité douce, ça veut dire les gens qui viennent en vélo ou à pied, parce que c'est possible. Il y a quand même pas mal de gens qui ne sont pas si loin que ça. On a bien développé les transports en commun. Il faudrait qu'on puisse réduire encore un peu le nombre de voitures qui viennent sur le festival. Mais ce n'est pas si simple parce que la configuration du festival, avec notamment la capacité du train, actuel est un peu un chaînon faible du système. Il est très fort parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui viennent en train, mais on est un peu, presque en limite de capacité. Donc, il faut qu'on attende encore des travaux sur l'Union Saint-Sacre pour pouvoir augmenter le nombre de spectateurs qui viendraient en train.
Merci, Monsieur Rosla, pour vos réponses. On prend une courte pause avec Snow des Red Hot Chili Peppers, qui nous rappelle un grand moment de l'édition de l'été dernier. Et puis, on revient pour une dernière partie en compagnie de Johan.
Decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, yo, listen what I say, yo. I got your hey.
Bonjour, au-delà d'être Monsieur Paléo, nous rappelons à nos auditeurs que vous occupez une place importante au niveau politique. En effet, vous êtes le syndic de la ville d'Oignon. On se pose quand même la question, comment êtes-vous arrivé dans la politique ?
Un peu par accident. J'ai été journaliste pendant un moment et j'étais un spectateur très attentif de la vie politique à l'époque, puisque je suivais les travaux du conseil communal d'Oignon, mais aussi d'autres communes. Et puis, en ayant été animateur dans le centre de loisirs, j'ai eu l'occasion de côtoyer beaucoup de gens. Et puis, évidemment, en étant à la tête du festival Paléo, ben, j'étais obligé de traiter avec les autorités à plusieurs niveaux. Et c'était extrêmement intéressant. Ensuite, j'ai été directeur des événements pour Expo 02, ce qui m'a permis de, là aussi, rencontrer un nombre incroyable de politiciens. Mais j'ai toujours été très attentif à l'actualité politique nyonnaise, vaudoise, suisse, genevoise, française, internationale. Je suis un grand dévoreur de journaux et de revues d'actualité, de médias en général par rapport à la vie politique. Mais je ne voulais pas faire de politique parce que je ne me sentais pas dans un parti, en plus en étant dans un festival qui se veut neutre sur le plan politique et religieux, je me voyais mal adhérer à un parti. En plus, il n'y en a aucun qui correspondait vraiment à ce que je pensais. Il y avait des bonnes idées dans plusieurs, mais je ne me voyais pas mettre le maillot d'un parti. L'accident, en fait, c'est le syndic à l'époque de Nyon qui a dû démissionner parce qu'il avait décidé d'aller habiter le village d'à côté et pensait qu'il pouvait quand même rester syndic de Nyon, ce qui n'a pas été le cas. Donc il a dû démissionner. Et puis là, il y a des gens qui sont venus me trouver en me disant « On a besoin de quelqu'un comme toi ». Puis j'ai dit « Ah bon ». Je me suis dit que j'allais réfléchir. En fait, c'est vrai que le poste qui m'intéressait, c'était le poste de syndic. j'avais pas envie d'aller au conseil communal. Je trouvais que c'était pas ça qui était le plus intéressant pour mon envie de m'impliquer dans la vie locale. Je suis quelqu'un d'action, j'avais envie d'être plutôt avec un projet de ville, avec une idée d'un état d'esprit, une idée de ce qu'on pouvait faire à Lyon. Donc j'ai bien réfléchi. Je me suis laissé une dizaine de jours de réflexion parce qu'il n'y avait pas une urgence absolue. J'ai écrit pas mal de choses pour savoir où je me positionnais politiquement par rapport à la fois à mes valeurs et mes envies pour la ville. Et puis, je me suis dit, le problème, c'est que si j'accepte et qu'on m'élue, mais j'étais relativement confiant quand même que j'avais des bonnes chances d'être élu, qu'est-ce que j'allais devoir abandonner parce que c'était impossible de tout faire. Et ce qui était évident, c'est qu'il n'y avait pas de problème d'avoir à la fois Paléo et la ville, puisque la ville ne verse pas de subvention à Paléo et que Paléo paye l'entier des prestations de la commune. Donc voilà, j'ai bien réfléchi, ensuite j'ai dit oui. J'ai eu après pas mal de temps parce qu'il y a eu une procédure juridique qui a duré quelques mois avant des élections. Et puis j'ai eu la chance d'être élu de manière relativement confortable comme syndic de Nyon.
Est-ce que c'est quand même Paléo qui vous a quand même fait un peu booster pour être syndic de la ville de Nyon ou...
Non, à Paléo, on a discuté. Hein. J'ai demandé au comité d'organisation et aux membres de l'association s'il n'y avait pas un veto par rapport à ça, ou un refus, ou un problème. Les gens ont compris qu'effectivement, ça pouvait être quelque chose d'intéressant pour moi, une autre expérience. J'ai dû déléguer beaucoup de choses. On a plutôt mis en place un système pour que je puisse conserver la présidence de Paléo, mais en ayant délégué un certain nombre de tâches. Et puis, on a veillé à ce qu'il n'y ait pas de risque de conflit d'intérêts. C'était aussi quelque chose qui était important. Et ce que je dois dire, c'est que l'expérience que j'ai eue de Paléo, de cette ville éphémère, m'a beaucoup aidé par rapport à la conduite de la ville. Et j'ai pu amener un certain nombre de choses et d'expériences, notamment aussi par rapport à l'aventure d'Expo 02. Alors bien sûr que j'ai appris beaucoup de choses de la conduite d'une ville, c'est quand même important. Mais je dois dire que c'est plus facile d'être syndic de Nyon que d'être président de Paléo, notamment en tout cas dans les premières années, parce qu'une ville comme Nyon, on a une administration qui est très solide, avec des gens très compétents. On risque pas d'être en faillite demain, on sait comment on va payer les salaires, les factures elles sont payées, c'est pas l'office des poursuites qui va s'en occuper, alors que dans les premières années de Paléo, des fois j'avais des nuits très agitées parce que je savais pas comment on allait payer les salaires ou comment j'allais payer les factures ou les acomptes des artistes qui allaient venir. Donc voilà, c'est l'addition d'expérience que j'ai eu à Paléo et à Expo qui m'a permis de m'acclimater assez rapidement à la tête de la ville de Nyon.
Le 4 mars de l'année prochaine, nous voterons l'initiative Nobilag. Pouvez-vous nous expliquer l'objet de cette votation ?
Alors, il y a eu une idée qui paraît un peu saugrenue, mais ça fait partie du système de la démocratie directe en Suisse. Une initiative qui dit il faut que ça soit gratuite et il ne faut pas que le gouvernement paye pour une télévision ou une radio et il faut renoncer à la redevance qui est payée actuellement par tous les ménages et les entreprises pour avoir le droit d'écouter la radio et la télévision. Cette redevance, elle permet de financer une quarantaine de chaînes dans le pays, des chaînes de radio et de télévision. L'enjeu, il est majeur. L'idée, elle paraît farfelue. Et puis, en même temps, si on demande aux gens, est-ce que vous êtes d'accord de payer moins, souvent, ils ont envie de dire oui. Donc, elle est un peu racoleuse comme initiative, mais les dégâts seraient considérables. D'autant plus que pour des minorités comme la Suisse ou l'italienne ou la Suisse romande, c'est sûr que ça participe à l'identité de notre région d'avoir un média régional. Et je pense que les conséquences seraient vraiment dramatiques. Même si on est critique par rapport à la radio ou à la télévision, où on trouve que ce n'est pas toujours ce qu'on voudrait, que ça pourrait être autrement, je pense que ça serait une grosse erreur que d'accepter cette initiative.
Une bonne partie de nos auditeurs sont encore trop jeunes pour voter à cette occasion. Pouvez-vous leur parler du Conseil des jeunes du district d'Ognon ?
Alors, le Conseil des jeunes est une excellente initiative. Ce qui est important, c'est qu'elle vienne des jeunes eux-mêmes. Parce que quand c'est les grands qui veulent dire aux jeunes ce qu'ils doivent faire, en général, ils ne sont pas très bons ou ils se trompent. Et ils ont une attitude un peu paternaliste ou condescendante ou bien ils manquent de compréhension des problèmes des jeunes. Je pense qu'il faut mettre un cadre convenable pour soutenir à la fois une démarche de ce type-là, pas non plus en faire une machine à fantasmes, parce qu'il faut être réaliste. On ne peut pas changer le monde en deux séances. Et puis en même temps, je pense que c'est important que des jeunes s'impliquent dans la vie de leur commune, de leur quartier, de leur région, et puissent s'exprimer. Il faut en contrepartie que les gens qui sont aux commandes de la politique ou de l'économie aient une écoute attentive à ces jeunes. Dans l'économie, en général, on essaye d'écouter les jeunes pour leur vendre quelque chose, on les considère comme des clients potentiels intéressants. Dans la politique, ce que j'aimerais, c'est que ça ne soit pas dans le même esprit. Ça veut dire, le but, ce n'est pas d'avoir des futurs membres de son parti, mais plutôt d'être à l'écoute des jeunes pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'ils s'impliquent davantage dans les décisions et puis qu'ils aient aussi une possibilité d'exprimer leurs attentes pour voir comment on peut améliorer leur cadre de vie.
Quels sont vos objectifs futurs en tant que politicien ? Est-ce que l'on vous verra peut-être un jour au Conseil fédéral ?
Alors d'abord, je ne me considère pas vraiment comme un politicien, même si par nature, je dois faire de la politique. J'ai renoncé à aller au Conseil d'État alors que l'élection elle était pratiquement assurée. J'avais le soutien des Verts, des socialistes et du centre face à un élu UDC qui, à mon sens, avait peu de chance, c'est sans prétention que je le dis. J'ai renoncé parce que je voulais plutôt rester à Nyon et que je ne voulais pas perdre Paléo. Donc pour moi, Paléo est quelque chose de très important. Quand je dis que je ne me considère pas comme politicien, bien sûr que je suis obligé d'être dans un système politique et de tenir compte des partis politiques et de tenir compte de la réalité de la démocratie. Je ne suis pas un chef de l'entreprise Ville de Nyon, quand bien même j'ai plutôt une approche de manager que d'une approche politicienne. Et voilà, j'essaye de faire ça. Je n'ai pas d'autre ambition que de faire en sorte que Nyon évolue dans une phase de développement extrêmement intéressante, mais en même temps cruciale. Je n'ai pas d'autre ambition que d'essayer de conserver un cadre de vie qui soit agréable, une identité qui soit forte, de faire en sorte que la notoriété de la ville soit la meilleure possible. Ça ne suffit pas, la notoriété, mais qu'également les gens aient le plaisir de vivre dans cette ville, toute génération confondue, et quel que soit leur niveau socio-économique.
Merci infiniment de nous avoir éclairé sur cette thématique compliquée qu'est la politique. Nous prenons une dernière pause musicale avec Guns N' Roses et leur titre « Sweet Child O' Mine ». Et ben voilà, c'est déjà la fin de cette grande émission spéciale avec Danny Rossella. Un grand merci à lui d'avoir répondu présent à notre invitation malgré son emploi du temps très chargé. Merci aussi à Loris Falquet pour nous avoir épaulés dans l'organisation, ainsi qu'à Justina, Margot et Nico et une partie de mon équipe du journal de l'école qui rendu cette interview inédite et passionnante. Nous espérons que cette émission vous a plu et nous vous disons à tout bientôt sur l'antenne de Radio Genolier.
Radio Genolier, c'est de l'information, de la musique, des découvertes et de l'humour. Et c'est tous les mardis à 20h, mercredi 14h et samedi à 8h sur radiobus.fm.